Je pense qu'il y a une grosse différence, puis vous le savez, moi, j'ai lancé mon entreprise à temps partiel, puis j'en parle souvent, là, de cette transition-là, puis aussi de se garder des options, puis d'être très agile dans la vie. Mais je pense que, vraiment, cette conception de voir le pro versus l'amateur, c'est ce qui nous permet d'aller all-in dans un projet, dans un objectif, tout en se respectant, tout en respectant aussi nos ambitions. Tu sais, ça veut pas dire que aller all-in, ça veut dire que je dois tout lâcher, que je dois lâcher ma job, que je dois risquer ma sécurité financière ou des choses comme ça pour poursuivre mon rêve, mais tu sais, ou que je dois faire des choses qui sont détrimentielles à ma santé. Mais d'un autre côté, c'est de savoir, tu sais, est-ce que je suis prête à entamer le marathon? Est-ce que je suis prête à vraiment changer pour arriver là? Est-ce que je suis prête à devenir la personne que j'ai besoin de devenir malgré les inconforts de la transformation, malgré de sortir de ma chrysalide, malgré tout ce qu'il y a à faire au niveau du travail pour atteindre cet objectif-là? Et si la réponse est non, ben peut-être que ça veut dire que c'est pas le bon objectif pour moi. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 64.
Mon nom est Adjana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Ambition au féminin, épisode solo aujourd'hui. J'avais envie de jaser avec vous, de discuter d'un sujet que je trouve qui est très à propos ces temps-ci, surtout avec... On est au mois de février, là, la transition vers la nouvelle année s'est passée. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va... observer peut-être un manque de motivation, on va peut-être observer que nos grandes idées, nos grandes ambitions du tournant de l'année ne se concrétisent peut-être pas à la hauteur qu'on voudrait, puis tu sais, il y a des petits enjeux qui se montrent des fois au niveau du mindset ou au niveau de la direction qu'on a voulu prendre. Et je voulais, dans le fond, parler avec vous d'une expérience assez personnelle que j'ai vécue l'année passée qui m'a vraiment fait réfléchir à l'importance de comment on fixe nos objectifs, mais aussi du pourquoi on fixe nos objectifs, et aussi vous donner peut-être des pistes de ce que j'ai appris par rapport à comment rester focus aussi sur nos ambitions, comment rester focus sur aussi quand on traverse des épreuves ou des difficultés ou qu'on voit que les choses ne fonctionnent pas. Parce que ce que j'ai remarqué beaucoup, puis ce que je vois aussi beaucoup avec mes clients qui sont soit en transition vers l'entrepreneuriat ou qui veulent monter certains projets, c'est que, veux pas, puis vous le savez aussi bien que moi, on a tous des pensées limitantes qui nous ont empêchés jusqu'à maintenant d'atteindre nos objectifs ou qui continuent à se mettre dans le chemin d'aller chercher la valeur dont on croit qu'on vaut ou de s'embarquer dans des projets dans lesquels on n'a pas nécessairement confiance. Donc, c'est sûr que toutes ces pensées limitantes du syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, notre perfectionniste, tout ça se met en chemin souvent de l'atteinte de nos objectifs, mais c'est encore plus profond que ça parfois, puis ça va vraiment au cœur de nos motivations intrinsèques à faire ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé, ou tu sais, du moins la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux vraiment atteindre ce que tu veux atteindre comme objectif? Est-ce que tu veux vraiment atteindre ces objectifs que tu te donnes? Est-ce que tu assumes vraiment tes ambitions? Puis est-ce que tu les assumes tellement que tu es prête à aller all-in pour les atteindre? Et je vais vous renvoyer à peut-être un épisode où je parlais de la différence entre approcher un projet d'une façon amateur versus approcher un projet d'une façon pro, professionnel. Puis ça, c'était basé sur un livre que j'avais lu que je trouve absolument excellent puis que je vous recommande fortement, qui est Turning Pro de Stephen Pressfield. Parce que ça a vraiment changé ma perspective sur à quel point je me sens engagée dans mes objectifs et à quel point je me sens engagée vers mon succès. À quel point est-ce que je crois vraiment à mon succès, à quel point je suis prête à traverser l'inconfort, traverser les problématiques pour arriver là où je veux arriver. Et je pense qu'il y a une grosse différence, puis vous le savez, moi j'ai lancé mon entreprise à temps partiel, puis j'en parle souvent là de cette transition-là, puis aussi de se garder des options, puis d'être très agile dans la vie. Mais je pense que vraiment cette conception de voir le pro versus l'amateur, c'est ce qui nous permet d'aller all-in dans un projet, dans un objectif, tout en se respectant, tout en respectant aussi nos ambitions. Tu sais, ça veut pas dire que aller all-in, ça veut dire que je dois tout lâcher, que je dois lâcher ma job, que je dois risquer ma sécurité financière ou des choses comme ça pour poursuivre mon rêve, mais tu sais, ou que je dois faire des choses qui sont détrimentielles à ma santé. Mais d'un autre côté, c'est de savoir, tu sais, est-ce que je suis prête à entamer le marathon? Est-ce que je suis prête à vraiment changer pour arriver là? Est-ce que je suis prête à devenir la personne que j'ai besoin de devenir malgré les inconforts de la transformation, malgré de sortir de ma chrysalide, malgré tout ce qu'il y a à faire au niveau du travail pour atteindre cet objectif-là? Et si la réponse est non, ben peut-être que ça veut dire que c'est pas le bon objectif pour moi. Bon, c'est pas mal abstrait ce que je vous raconte là en ce moment, mais je veux vous donner un exemple concret qui m'a vraiment fait intérioriser cet apprentissage, puis va peut-être vous parler à un certain niveau. Puis je veux quand même faire un petit disclaimer, un petit avertissement, que je vais parler de mon poids. Je vais parler de perte de poids, qui est un projet que j'ai entamé l'année passée, et de ma relation à mon corps. Et je veux juste vous dire ça maintenant parce que si c'est un sujet qui peut vous rendre inconfortable, si vous avez l'impression que peut-être, tu sais, vous avez pas envie de rentrer dans ce genre de réflexion, même si c'est la mienne uniquement et je ne vais pas vous dire comment perdre du poids, des choses comme ça, c'est vraiment un témoignage de moi à vous, mais par rapport à ma propre expérience, je veux juste m'assurer que si vous avez une sensibilité à ce niveau-là, ben vous pouvez arrêter votre écoute maintenant. Alors, il y a un an presque exactement, j'ai entamé un gros processus, mais pas un gros processus. Mettons que je suis quelqu'un qui, comme bien des femmes, a toujours été un peu insatisfaite à propos de son image corporelle, à propos de son poids. Tu sais, je veux dire, je trouve que la façon que la médecine actuelle est faite, on nous shame, on nous met beaucoup de honte et d'humiliation autour de les quelques kilos en trop qu'on pourrait avoir qui apparemment sont le signe de notre santé en déclin. Bref, j'en aurais beaucoup à dire sur la grossophobie aussi, mais en tout et pour tout, je veux juste signifier que j'ai eu un problème pas mal toute ma vie avec le poids que j'avais, même si je suis quelqu'un qui est très musculaire. Donc, je me suis toujours beaucoup entraînée et, tu sais, on sait que les muscles, bon, pèsent plus que le gras, etc., etc. Mais avant de tomber enceinte, j'avais eu un problème de fertilité. En fait, on m'avait dit que j'avais des ovaires polykystiques et que à cause du syndrome des ovaires polykystiques, ben j'arrivais pas à perdre du poids, puis j'arrivais pas à tomber enceinte naturellement, j'allais devoir passer par la fertilisation assistée ou des choses comme ça. Et que il y avait deux options, je prenais des médicaments qui me rendaient malade et donc j'ai décidé de refuser, ou il fallait que je perde du poids. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais là, j'ai tout essayé, je m'entraîne 4 fois semaine, genre, tu sais, je mange santé, puis j'arrive pas à perdre du poids, j'ai déjà même payé des milliers de dollars en entraînement, et ça ne fonctionne pas. Et En tout et pour tout, bon, j'ai détoxifié mon environnement, j'ai réussi à tomber enceinte naturellement, ça a été un petit miracle, parce que c'était le jour où je me suis ramassée en clinique de fertilité pour notre premier rendez-vous. Ils font les tests de routine et ils font un test de grossesse. Puis quand j'ai eu le résultat, eh bien, on m'a dit « ben, t'as pas besoin de fertilité parce que t'es enceinte ». Donc, bref, petite histoire, le fun, là. Je suis tombée enceinte naturellement, finalement, et à travers ma grossesse, ben il y a eu toute apprivoisement de mon corps en changement, tu sais. Puis pour quelqu'un qui a beaucoup eu des problèmes de poids, tu sais, la grossesse, ça peut être quelque chose d'un peu psychologiquement difficile de se voir justement prendre encore plus et encore plus de poids. Et j'étais chanceuse parce que j'étais suivie par des sages-femmes à la maison de naissance Côte des Neiges ici à Montréal que j'adore. Je me sens tellement privilégiée d'avoir pu vivre ma grossesse de cette façon-là, non médicalisée. Et elles m'ont jamais pesée de toute ma grossesse parce qu'elles voyaient que la grossesse se passait bien, il n'y avait pas de problème au niveau de la santé et on avait parlé un petit peu au niveau psychologique de cette histoire de poids, donc elles ne voulaient pas nécessairement m'ajouter un stress à ce niveau-là, ce que je les en remercie aussi. Donc, j'ai pu vivre ma grossesse vraiment sans focusser sur ce côté-là, je focusais beaucoup sur... Bref, le plaisir de me voir changer et tout ce qui venait avec. Fast forward à début, ben, peut-être fin 2019, tu sais, ma fille allait avoir 6 mois et j'ai fait vraiment la réalisation pendant mes premiers mois de maternité que là, c'était pas à cause que j'étais super enceinte que je rentrais plus dans mes vêtements, mais j'avais vraiment j'avais vraiment pris beaucoup de poids. On parle ici de environ 50 livres. 50 livres en kilos, j'imagine, c'est quelque chose comme 20 ou 25 kilos. Et je me sentais plus bien. Genre, là, il y a eu comme l'espèce de down là, après le quatrième trimestre dont on parle, là, les 3 premiers mois avec ton bébé. J'avais de la difficulté à me reconnaître dans mon corps, j'avais de la difficulté à me sentir bien, je me sentais pas non plus confiante professionnellement, il y avait tous ces changements dans ma vie, puis tu sais, pas rentrer dans tes vêtements, devoir te refaire une garde-robe, tu sais, c'est pas toujours le fun non plus, sachant que tu sais, t'as souvent vécu avec ce stigma-là, genre dans le passé. Donc, arrive le début d'année en 2020, et là, je décide que je veux avoir du succès dans mon entreprise, je veux avoir du succès, je veux vivre une vie épanouissante, autant au niveau personnel que professionnel, et la façon dont je me sentais dans mon corps en ce moment m'empêchait de me sentir... ne représentait pas la personne que je voulais devenir. Puis là, je dis pas que peu importe notre poids, on peut pas se sentir bien ou on peut pas se sentir heureux. C'est là vraiment que je veux faire un bémol. Mais moi, je vous parle vraiment juste de mon expérience. Je ne voulais pas me sentir comme ça. Et pour moi, une solution, c'était comme je veux, non seulement pour ma santé, mais pour mon propre bien-être psychologique, je veux entamer un processus de perte de poids. Et comme je vous ai expliqué, j'en ai entamé beaucoup dans le passé, si bien que le dernier que j'avais fait, c'était avec un coach. J'aimais beaucoup m'entraîner, j'aime beaucoup la boxe, j'aime beaucoup faire de l'exercice, en gros, là, j'adore ça. Et je me rappelle que j'étais sortie de cet entraînement-là une fois en pleurant, parce que j'étais encore une fois montée sur la balance et il n'y avait pas de résultat. Et à ce moment-là, mon coach, qui était vraiment très... très ouvert aussi à le lien entre le psychologique et le physique, m'avait demandé « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le chiffre sur la balance? » Parce que pour lui, tu sais, genre, j'avais augmenté ma masse musculaire, je perdais du gras, je perdais... tu sais, je veux dire, je devenais plus agile, plus flexible, j'étais plus active, mais j'étais déçue de moi-même, j'arrivais pas à ce résultat, puis... Puis là, il a commencé à me poser la question. Et là, ça m'a vraiment arrêté pour me dire c'est quoi vraiment la symbolisation de tout ça? Est-ce que je suis vraiment en train de travailler sur un chiffre, sur une balance? Puis si oui, ce chiffre-là, il veut dire quoi? Puis là, ça a été comme un peu une petite graine qui a été plantée dans moi pour me dire, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre au niveau de cet objectif que je me fixe, que j'ai pas encore assumé pleinement et que on dirait que je le masque derrière tous ces efforts que je mets pour faire plus d'exercices, engager des coachs, t'sais, me faire rassurer à travers tout ça, alors que le problème, c'est probablement pas ça. Il y a quelque chose d'autre que je veux pas nécessairement adresser parce que j'étais pas capable de lui répondre. Bon, fast forward, ça c'était un petit peu avant que je tombe enceinte justement. Fast forward à début 2021, là je me dis, ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je sais comment bien manger. Je sais faire de l'exercice. Je sais que le stress, ça a un gros effet sur moi. Je vais me faire accompagner plus au niveau psychologique de cette perte de poids-là. Puis c'est là que j'ai rejoint le membership de Brooke Castillo que j'écoute religieusement depuis des années et qui était une coach de perte de poids avant d'être une life coach, une coach de vie. Et son membership, c'était pas donné, c'était quand même 300$ par mois. Je m'étais inscrite pour un premier mois. Et là, je me suis dit, ça, c'est mon objectif pour maintenant. Mes objectifs de revenus, mes objectifs de tout ça vont prendre le bord et je vais focusser là-dessus. Et j'ai fait son programme. J'ai binge-watché son programme par rapport à la perte de poids. Et c'est là vraiment que j'ai eu toutes ces réalisations, parce que dans le fond, le programme est pas tant au niveau de diète, c'est pas tant non plus au niveau de faire de l'exercice. En fait, elle te décourage. Elle te dit, tu sais, si tu es pour faire de l'exercice, fais-le pas pour la perte de poids, fais-le pour ta santé mentale. Il va pas y avoir de diète ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer les émotions qui t'amènent à trop manger. Dans le fond, le programme s'appelait comme ça, il s'appelait Stop Overeating, arrête de manger plus que t'en as besoin, et il était focusé sur le fait que on utilise, moi dans mon cas c'était ça, que j'utilisais la nourriture comme pour remplir un manque, pour réagir à certaines émotions ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, la gestion des émotions m'a permis d'atteindre des résultats que j'aurais même pas imaginé. En un an, j'ai perdu mes 50 livres que j'avais pris et j'ai tout fait ça seulement. C'est sûr que j'ai pas réduit, mais dans le sens, j'ai réfléchi à la façon dont je mange, à mes signaux de faim, à tout ça, des choses qu'on t'apprend quand des nutritionnistes ils te parlent. Mais tu sais, c'était pas une question de compter ses calories, c'était pas une question de quoi que ce soit comme ça, c'était vraiment une question d'être hyper consciente de qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais avec cette nourriture-là, puis comment est-ce que je fais, comment est-ce que ça se traduit en résultat dans ma vie. Comment est-ce que chaque petite action que je pose, chaque petite bouchée que je prends, chaque petite chose que je fais inconsciemment parce que je ne suis pas attentive, contribue à mes résultats négatifs? Puis ça a été vraiment... Ça n'a pas été nécessairement facile parce qu'on sait tous que du travail sur les émotions, ça veut dire que tu dois vivre avec l'inconfort de l'émotion. Alors que par le passé, cet inconfort-là était rempli par, dans mon cas, la nourriture, mais ça peut être aussi le travail, ça peut être tout un tas de choses avec lesquelles on remplit ce manque-là, les achats compulsifs, ça peut être plein de choses qui nous empêchent d'être pleinement conscients avec ce qu'on est en train de vivre, avec nos réalisations. Alors, une des premières étapes pour arriver à ce travail-là que j'ai fait, c'est que il fallait que je m'engage à vivre l'inconfort sans avoir le petit band-aid ou avoir le petit, tu sais, le petit morceau de chocolat pour venir adoucir la chose. C'est comme, comment est-ce que je dois m'engager à être 100% vrai envers moi-même? Puis je pense que dans tout objectif qu'on se donne, il y a cet engagement-là hyper honnête qu'on doit se donner, puis de se dire, est-ce que tu t'engages à cette personne que tu veux devenir? Puis moi, ça, c'était une phrase que je me répétais souvent pendant ce moment-là, pendant les moments où je disais à mon chum, « Ah, j'aimerais tellement ça, manger une toast! » Parce qu'on s'entend, moi, j'ai arrêté de manger du pain. Parce que, tu sais, dans le fond, il n'y a pas de diète, mais une des choses que dit, tu sais, c'est comme, « Mange pas de sucre, on s'entend, tu sais, mange pas de sucre. » Puis, mange pas de pain parce que le pain, dépendamment de comment ça réagit, puis moi je le savais que le pain me fait beaucoup réagir, c'est de voir, tu sais, c'est quels éléments qui te font prendre du poids ou perdre du poids ou, tu sais, comment est-ce que tu peux manger. Puis, tu sais, j'ai coupé le pain de ma vie, puis je m'en sens pas plus, tu sais, je veux dire, j'ai fait ce choix conscient, des gens seraient comme moi, je serais jamais capable de faire ça, je vous demande pas de le faire, moi je l'ai fait parce que j'étais engagée à cette version de moi-même que je voulais, puis pour moi, le pain était moins important que mon image du succès que je voulais pour moi-même. Puis devoir dire non à la farine, au pain, aux pâtes, c'était ma façon de m'engager envers moi-même. C'était ma façon de me dire, oui, je fais ce choix. Je fais ce choix conscient parce que je sais qu'il y a quelque chose de mieux de l'autre côté. Puis tout objectif implique ça. Devenir entrepreneur, lâcher sa job, devenir une meilleure épouse ou peu importe ce que c'est, ça implique qu'on va faire des choses inconfortables, mais qu'on les choisit consciemment. Je voyais aussi que, tu sais, souvent, ce qui s'était passé dans le passé avec les différentes choses que je faisais par rapport à mon poids, notamment genre d'augmenter mon activité physique, d'essayer de faire des diètes parce que j'en ai fait par le passé, c'était tout axé sur essayer de mettre sur quelque chose d'externe la solution et de pouvoir blâmer cette chose-là si ça marchait pas. Fait que dans le projet que je me suis donné, dans le fond, j'avais besoin de prendre la full responsabilité de mes résultats pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir être vraiment commit, pour pouvoir être vraiment engagée sur chaque action que j'allais poser. Puis ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que, puis en général, mes clients, quand ils sont mes clients, ils ont compris ça, mais tu sais, avant de le devenir, souvent, je vois qu'il y a la mise de la responsabilité sur d'autres facteurs externes, comme par exemple, ben là, j'ai fait toutes les formations qu'il y avait à faire, mais là, je publie tous les jours, puis ça marche pas, puis là, il y a la pandémie, puis là, il y a ci, puis là, il y a ça, puis là, il y a mon argent, puis là, il y a mon chum, puis là, il y a ma famille, puis là, il y a mon horaire. Mais à un moment donné, c'est de se dire, ton résultat, il y a personne d'autre qui est responsable que toi. Si tu te dis, ah ben, j'étais trop stressée, j'ai mangé un morceau de chocolat, comme dans mon cas, ben, il n'y a personne d'autre qui a mis ce chocolat dans ma main. Il n'y a personne d'autre qui s'est levé pour aller le chercher. Fait que c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on est 100% responsable de nos actions, de nos résultats, de nos choix. Puis, par le passé, j'ai l'impression que c'est ça qui était arrivé. J'avais préféré mettre le blâme sur des méthodes, mettre le blâme sur... Puis après ça, me dire « Ah, ben ça marche pas pour moi. Moi, je suis une exception. » Moi, je suis une exception parce que dadadidadada. Ce qui est complètement faux, là. Je vois pas pourquoi je serais différente de plein d'autres mondes. Donc, à travers ma reconnexion avec mes émotions, ma reconnexion avec ma vision pour moi-même, ma reconnexion avec mes choix, il y avait aussi ce degré d'autoresponsabilisation qui était extrêmement important. Et l'autoresponsabilisation, ce que ça a mené, c'est que ça a mené à un focus. Là, j'ai mis en place des habitudes que le Brooke Castillo avait suggéré, mais qu'après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y avait du test aussi de savoir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. Tu sais, comme par exemple, elle disait, genre, vous pouvez expérimenter avec le jeûne intermittent, vous pouvez expérimenter avec l'échelle de la faim, tu sais, comme par exemple d'essayer de dire, bon, ben, si je suis à un niveau 4 sur 10, j'arrête de manger parce que j'ai assez mangé. Mais si je suis à un niveau moins 4 sur 10, ben là, c'est j'ai assez faim pour pouvoir aller manger. Fait que, tu sais, de rester dans cette zone-là sans aller jusqu'au 10 sur 10, je suis tellement pleine, genre, je vais exploser, ou j'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Fait que, tu sais, vraiment dans la conscience de soi, ça m'a permis aussi d'aller chercher du focus dans les habitudes que j'ai mis en place. Comme par exemple, une habitude qui a beaucoup supporté mon projet, ça a été d'écrire tous les jours, la veille, qu'est-ce que j'allais manger le lendemain et de respecter ça. Puis si je disais « aujourd'hui, je vais manger des fraises avec de la crème fouettée », ben il fallait que je respecte aussi qu'est-ce que je m'étais dit. Tu sais, c'est pas... parce que notre moi présent va souvent essayer d'éviter l'inconfort, d'éviter les difficultés. C'est notre cerveau reptilien qui va agir sous le coup du plaisir ou du déplaisir. Alors que si on est capable de planifier d'avance ce qu'on va faire, là, c'est notre cerveau rationnel qui nous dit, tu sais, je suis en communication avec ton moi futur, je suis en communication avec ton objectif, et voici ce qu'une personne rationnellement serait capable de mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Et c'est supporté notamment parce que je suis en train de lire en ce moment dans un livre vraiment intéressant qui s'appelle Predictably Irrational, où, tu sais, il faut pas demander de prendre des décisions importantes quand tu es dans un état d'excitation. Ou, tu sais, dans un état très, très émotionnel. Il faut faire attention au genre de décision qu'on prend dans ces moments-là. Puis moi, comme je focusais sur le fait de manger moins mes émotions, ben, tu sais, je pouvais pas prendre nécessairement des décisions en état émotionnel, et donc je devais me rappeler, voici la décision que t'as pris, voici la décision que t'as pris, fais juste suivre le plan que tu t'es donné avant d'être dans cet état-là. Donc le focus devenait beaucoup plus clair aussi. Puis finalement, une chose que je pense qui était une belle chose à aller chercher autant au niveau de l'autoresponsabilisation, mais c'était de faire confiance au processus. Et ça, c'est quelque chose que je vous encourage tous à faire si vous embarquez dans soit un coaching ou si vous embarquez dans quoi que ce soit que vous essayez d'apprendre, c'est que il y a une courbe d'apprentissage, il y a une courbe de difficulté, il y a des creux dans le processus qui font que à un certain point on va atteindre des plateaux. Tu sais, ça m'est arrivé aussi avec ce projet-là de perte de poids, on atteint un plateau. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout mettre à la poubelle? Est-ce que ça veut dire qu'on doit réajuster? Tu sais, c'est là vraiment qu'il faut se dire, parce que si on fait confiance que ça va fonctionner, ben là c'est sûr que on n'arrive pas avec tout un tas de pensées limitantes qui vont nous empêcher de mettre en place les bonnes actions pour corriger le tir si nécessaire. Et moi, quand je me suis engagée dans ce programme-là, je me suis dit, je vais y aller all in, dans le sens que je vais faire confiance all in, que c'est ça que j'ai besoin de faire en ce moment. Et je vais faire les exercices, je vais faire je vais faire les réflexions, je vais aller là où c'est inconfortable, parce que mon objectif est plus important que ce que je dois faire pour mettre ça en place. J'espère que mon exemple vous a pas trop... que vous avez compris où je m'en allais avec ça, puis le lien à faire avec vos objectifs, peu importe ce que c'est, autant au niveau professionnel que personnel, parce que je pense que ces éléments-là, l'autoresponsabilisation, le focus, la confiance... c'est vraiment ce qui va différencier entre un succès et un échec, entre le succès et le statu quo, et qui va vous permettre aussi de faire les bonnes actions pour vous, mais aussi de bien identifier comment est-ce que vous pouvez mettre en lumière vos ambitions. Puis aussi, comment est-ce que vos objectifs, peut-être, supportent parfois des pensées limitantes que vous avez. Tu sais, puis là, je pense à des objectifs de revenus très faibles ou des gens auraient peur d'ambitionner pour un grand projet. Puis tu sais, moi, on s'entend, moi, je m'étais donné comme objectif que je voulais perdre 40 livres puis rentrer dans ma robe préférée. Puis j'ai dépassé mon objectif. Puis oui, je rentre dans ma robe préférée, mais là, tu sais, genre, il y a plein de choses positives qui sont sorties de ça, dont ma confiance qui s'est améliorée, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'un objectif, il est là pour être... Il est pas là pour vous valider, tu sais. Il est là pour vous pousser à mettre des choses en place pour prendre action. Puis si vous atteignez 80% de l'objectif, ben vous êtes déjà à 80% plus de là où vous étiez quand vous avez commencé. Tu sais, c'est quelque chose à célébrer, là. Fait que c'est ça. C'était un petit peu... c'était ça le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui, que je voulais... dont je voulais vous parler, tu sais, parce que veux pas... Je me sens pas nécessairement à l'aise de parler de cette expérience-là par rapport à mon corps, parce que je sais comment ça a été difficile pour moi à travers toutes ces années-là, mais d'un autre côté, je voulais faire le parallèle avec quelque chose que je vois beaucoup... chez mes clients, notamment au niveau professionnel, de manquer peut-être le big picture, de manquer peut-être l'objectif et la réelle motivation qui le sous-tend. Donc voilà, je vais arrêter ça ici. Je serais curieuse de savoir si ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça vous a ouvert peut-être des petits champs d'exploration au niveau de la réflexion. Et si vous pensez que peut-être, puis là ça c'est vraiment de vous à vous, s'il y a des choses dans lesquelles vous vous auto-sabotez, des objectifs dans lesquels vous vous auto-sabotez à cause de soit de croyances que vous avez par rapport à ça, ou peut-être d'un manque de responsabilisation par rapport à votre objectif et aux moyens que vous mettez en place pour y parvenir. Et... sur ce, ben, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se reparle dès lundi prochain dans un nouvel épisode. Bye bye!
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!